Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Marseille, narco-ville avec ou sans les politiques. Reportage dès le début de ce journal sur le trafic de drogue qui a repris à la cité de la Castellane. Les dealers n'hésitent pas à narguer les policiers. Nous ferons aussi le bilan assez décevant de 2 jours d'opération Place Nette dans la ville. Et à 19h20, on en parle avec le député RN de Marseille, Franck Alizio. Vous pouvez témoigner au 01 80 20 39 21. Des commerçants qui affichent les photos des voleurs sur leur vitrine. Un député veut légaliser cette pratique et on en parle à 19h30 avec le président du collectif Ras le Vol. Gabriel Attal, lui, se félicite du record en matière de fraude fiscale et sociale, plus de 15 milliards d'euros récupérés. Les EHPAD Orpea changent de nom, le groupe va s'appeler Emeis. Qu'est-ce qui va changer concrètement? On sera en direct dans ce studio avec le directeur général Laurent Guillot. Ce sera donc à 19h45. Dans ce journal, la maison mère des enseignes sergent-major et du Paris au même en redressement judiciaire. Et puis on vous dira où déménager pour être heureux, puisque c'est la journée mondiale du bonheur. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
Alors est-ce que la tendance météo va nous rendre heureux?
Ben écoutez, bonheur, ça rime avec douceur.
Mais oui.
Douceur printanière et soleil toujours présent sur une grande partie du pays. Demain, un temps un peu plus mitigé près de la Manche et dans l'est du pays. Détails, précisions en fin de journal.
À tout à l'heure. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. En clair, à Marseille, quand les caméras et les politiques s'en vont, les dealers reprennent leur trafic. Hier, Emmanuel Macron est venu en visite surprise. Il parlait d'une opération sans précédent pour porter un coup d'arrêt au trafic de drogue. Opération d'ailleurs toujours en cours. Sauf que très vite, les trafiquants ont nargué les forces de l'ordre en annonçant leur réouverture sur les réseaux sociaux. Et le business a repris, notamment à la cité de la Castellane, comme l'a constaté Stéphane Burgat.
10h, retour du point de deal avec les guetteurs sur leurs chaises aux entrées, les barricades de caddies et les affaires reprennent pendant une heure jusqu'à l'arrivée des CRS. Et là, dispersion générale à grand renfort de cris. Depuis, les CRS maintiennent leur position et sur place, le préfet de police Collièx réaffirme la fermeté du dispositif, peu importe les provocations des dealers.
À la Castellane, aujourd'hui, il n'y a pas de retour de point de deal. Nous avons été présents hier soir, dans la nuit, nous avons interpellé hier dans l'après-midi, après le départ du président, encore 2 trafiquants qui essayaient de revenir. Ils ont été interpellés. Nous avons depuis fait un certain nombre de saisies sèches de stupéfiants.
Les opérations se poursuivent ce soir avec l'enlèvement des chicanes des dealers, mais aussi des voitures volées. Le calme règne pour l'heure, et ce jusqu'au moment où les CRS devront repartir. Le jeu du chat et de la souris est loin d'être terminé. Ces habitants de la Castellane en sont persuadés.
Ça ne peut pas s'arrêter d'un coup. S'il y en a un qui se fait arrêter, le lendemain, il y en aura un autre.
Il y a beaucoup de milieux en jeu. Le trafic ne va pas s'arrêter, parce que c'est impossible. C'est comme un cercle vicieux, ça se régénère.
D'autant que les dealers continuent d'alimenter leur boucle Telegram sur le réseau social. Ils annoncent cet après-midi encore leur retour en postant une vidéo de leur dernier arrivage de haschich. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Cette opération Place Nette à Marseille, elle doit durer 3 semaines, mobiliser au total 4000 membres des forces de l'ordre. Jean-Baptiste Marty, question simple, est-ce que pour l'instant elle porte ses fruits?
Eh bien non, c'est un bilan pour le moment décevant. Seulement 22 kg de stupéfiants ont été saisis par les policiers après 3 jours d'opération. Un maigre butin donc, car si l'on compare avec l'année 2023, 157 tonnes avaient été interceptées partout en France, selon les chiffres de l'OFAST. C'est donc tout juste 5% de ce qui était saisi quotidiennement l'année dernière sur tout le territoire. Alors depuis 3 jours, 119 personnes, essentiellement des dealers, ont été arrêtées. Un chiffre faible, notamment au regard de l'année précédente où plus de 36 000 personnes avaient été interpellées pour trafic de drogue, soit 98 par jour en moyenne. Une opération XXL qui pour le moment donc ne porte pas ses fruits, avec certains points de deal déjà reformés après le passage des forces de l'ordre. De son côté, le préfet des Bouches-du-Rhône assure ne vouloir laisser aucun répit aux trafiquants, lui qui assure que 44% des points de deal marseillais ont été démantelés ces 3 dernières années.
Et c'est la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot qui assure le service après-vente, obligé de reconnaître tout de même un bilan décevant.
La poursuite annoncée des opérations Place Nette répond à une volonté intraitable et ferme de l'État d'assurer le respect de l'ordre républicain partout sur le territoire national. Pas un seul centimètre de terrain ne sera laissé aux délinquants et aux trafiquants.
Est-ce que vous diriez qu'après cette opération, la Castellane est une Place Nette aujourd'hui ?
Je crois que vous avez la réponse à votre question. On ne va pas commencer à être hypocrite ici. Nous avançons pour que ça le devienne.
À quelle échéance ?
Vous voulez une date ?
Non, mais c'est pour après-demain ou c'est pour dans 10 ans?
Mais déjà, ça avance. Est-ce que c'est un combat de longue haleine? Oui. Est-ce que c'est un combat que nous avons pris en main? Oui. Nous devons inlassablement continuer. Nous devons ne pas capituler. Et Marseille en a été un bon exemple hier.
La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, interrogée par Jacques Serret. Et on va continuer à parler de cette situation à Marseille après le journal. Nous serons avec Franck Alizio, député Rassemblement National de la ville. On parlera aussi de ces commerçants qui veulent afficher les photos des voleurs pour les dissuader. Le président du collectif Ras-le-Vol sera dans Europe 1 Soir.
19h-20h,
Hélène Zélani.
Le Premier ministre n'a pas oublié qu'il a été aussi ministre des Comptes publics. Gabriel Attal présentait aujourd'hui les premiers résultats du vaste plan contre les fraudes sociales et fiscales, plan lancé l'an dernier. Et il avait le sourire, Barthélémy Philippe, puisque le gouvernement enregistre un record en matière de recouvrement.
Oui, l'an dernier, la lutte contre la fraude fiscale a permis la mise en recouvrement de 15,2 milliards d'euros de fraude, 600 millions d'euros de plus qu'en 2022. Concernant le second volet du plan, plus de 2 milliards d'euros de fraude sociale ont été détectés, dont 450 millions d'euros de fraude à l'assurance maladie, facturation d'actes médicaux fictifs, vente de fausses ordonnances sur Internet, mais aussi détournement de cartes vitales, un fléau que le Premier ministre veut combattre en relançant le projet de fusion entre la carte vitale et la carte d'identité.
La fraude à l'identité est une réalité. Vous avez des personnes qui viennent se faire soigner en France, utilisent la carte vitale de quelqu'un, alors même qu'elles n'ont pas les droits qui leur sont ouverts. Maintenant que je suis chef du gouvernement, tous les ministères sont très mobilisés sur cette question et donc on va avancer sur ce sujet-là.
Il s'agit malgré tout d'un chantier complexe qui prendra du temps pour des résultats incertains. L'an dernier, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie avait jugé minime les montants de fraude liés à une utilisation détournée de la carte vitale.
Et dans la série des fraudes, une infirmière marseillaise était jugée aujourd'hui pour s'être fait rembourser des dizaines de milliers d'actes fictifs par 34 caisses d'assurance maladie. Fraude de plus d'1,5 million d'euros pour laquelle le parquet a requis 3 ans de prison ferme. Et puis l'Union européenne a décidé de plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane. Ça concerne les œufs, les volailles, le sucre ou encore le maïs et le miel. Réponse à l'inquiétude et la colère des agriculteurs. Côté français, Marc Fesneau trouve ces mesures insuffisantes. Elle ne concerne pas le blé et l'orge, comme le réclamaient les eurodéputés. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, les nouvelles victimes de la crise du prêt-à-porter, la maison mère de Sergent-Major et du pareil au même, est placée en redressement judiciaire.
Europe 1 Soir.
Europe 1 Soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, nos centres-villes perdent de plus en plus d'enseignes. Dernière victime en date de la crise du prêt-à-porter, les marques pour enfants Sergent-Major et du pareil au même en grande difficulté. Leur maison mère vient d'être placée en redressement judiciaire, Tiffaine Dubuard.
Oui, avec ses 3 marques, ses 1000 magasins et ses 3500 employés, le groupe Général pour l'Enfant était l'exemple même du groupe familial qui réussit. Plus maintenant, Philippe Moiti est économiste et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
Dans le contexte actuel d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat, eh bien, malheureusement pour eux, l'habillement est une variable d'ajustement. Le marché est encore plus déprimé que sa tendance de long terme. Et donc, voilà, à force de recevoir des coups, si vous voulez, les plus fragiles tombent.
Arrivée du e-commerce, concurrence de l'ultra fast fashion, mais aussi de la seconde main, autant de facteurs qui déstabilisent les marques traditionnelles qui se montrent bien souvent incapables de s'adapter. En 10 ans, ce sont près de 40 000 emplois qui ont disparu dans le prêt-à-porter en France.
Et puis les 1000 salariés des Galeries Lafayette seront fixés sur leur sort ce soir ou demain. Décision attendue du tribunal de commerce de Bordeaux sur le plan de continuation d'activité pour les 26 magasins en région. Adieu Orpea, bonjour Emeis. Le premier groupe privé d'EHPAD français change de nom 2 ans après le scandale sur les pratiques de l'ancienne direction. Laurent Guillot, le nouveau directeur général, sera en direct dans ce studio à 19h45. Vous pouvez l'interroger au 01 80 20 39 21. Il est en pleine forme à 99 ans. Daniel Rebiffet est le dernier survivant des athlètes qui ont porté la flamme olympique lors des Jeux de Londres en 1948. Et aujourd'hui, son rêve devient réalité. Caroline Baudry, il fera partie des porteurs du flambeau olympique l'été prochain à Paris.
Oui, 76 ans après, la flamme brillera à nouveau au bout du bras du presque centenaire. Il avait commencé le sport dans les années 40, forcé comme tous les garçons par l'occupant nazi à faire de l'exercice deux fois par semaine. Coup de foudre pour l'athlétisme. Il intègre la garde républicaine après la guerre et fait partie des 25 athlètes choisis en 1948 pour courir trois jours en relais de Genève au Luxembourg. Son fils Sylvain se battait depuis près d'un an pour voir son père revivre ce privilège. Il avait partagé sa requête dans l'émission La Libre Antenne sur Europe en fin janvier.
Papa se remet à courir un peu tous les matins. Donc il fait son petit kilomètre. Il trottine. Et attention, il est très bien. Hein. Comme il me dit, je baffe pas, j'ai pas de déambulateur. Quand je l'ai vu à Noël, pour dire qu'il est en pleine forme, il me reçoit d'une drôle de façon. Il avait enfilé un haut de survêtement d'une marque bien connue de sport. Oui. Il avait enfilé un bonnet. Il a encore le flambeau olympique des Jeux de 48. Il l'a en sa possession. Il l'avait pris et avec son pouce levé. Il me dit, je suis prêt, il faut que je porte le flambeau.
Les deux hommes se disent aujourd'hui soulagés, rassurés que le symbole mémoriel ait obtenu reconnaissance. Ils se consacrent désormais à la préparation du relais où les flambeaux des deux siècles devraient se côtoyer.
Caroline Baudry. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce mercredi, c'est la journée mondiale du bonheur. Vous avez vu, je prends la voix qui va avec. Et si vous voulez vivre dans la joie et dans la bonne humeur perpétuelle, eh bien, il faut vous installer en Finlande. C'est pour la 7e fois consécutive le plus heureux pays au monde, selon un rapport parrainé par l'ONU. La France n'arrive qu'à la 27e place. Nous avons donc beaucoup à apprendre des Finlandais. Quel est leur secret, Marnie Poyet ?
Eh bien déjà, il faut savoir que le peuple finlandais est très proche de la nature, peut-être parce que 86% de la superficie du pays est recouverte de forêts. Ils ont également confiance en leurs institutions. D'ailleurs, là-bas, l'accès à la santé et l'éducation est totalement gratuit. Enfin, et c'est peut-être le plus important, leur vision de l'équilibre travail-vie personnelle est très différente de la nôtre, explique Alexandra Marchand-Claude, membre de l'Institut finlandais à Paris.
On commence plus tôt le matin, on est très efficace au travail, mais les pauses de déjeuner sont jamais plus longues qu'une demi-heure. Et après, quand ils rentrent, autour de 5 heures, on profite beaucoup après le travail. On fait une balade dans la forêt, on se baigne dans la mer quand c'est possible. C'est, un rythme de vie plus adapté par rapport à la France. Quand moi, j'ai commencé à travailler en France, j'ai été critiquée parce que je prenais une sandwich et je travaillais et je ne traînais pas au bureau le soir.
Cet état d'esprit à la finlandaise porte un nom, c'est le sisu, un terme qu'on ne peut pas traduire en français, une forme spécifiquement finlandaise de résilience, de persévérance. Face à l'adversité. Un exemple, il neige, il gèle, la voiture est en panne ce matin, mais ce n'est pas grave, un pratiquant du sisu ira au travail à pied et avec le sourire.
Et donc on dit vive le sisu. Est-ce que c'est aussi le bonheur sur les marchés financiers, Claire Lemaître de Boursier.com ? Pas vraiment en fait, hein, parce que le luxe a plombé l'ambiance à Paris.
Oui, désolé Hélène, c'est une baisse ce soir pour le CAC 40. Rien de méchant, moins 0,5%, 8161 points. Journée difficile pour le luxe et notamment pour le géant Kering. Son action chute de 12%, lourde sanction. La faute à Gucci, la marque emblématique du groupe, à l'origine de la moitié de son chiffre d'affaires total. Les ventes de Gucci devraient baisser de 20% au premier trimestre, de quoi inquiéter les investisseurs. Les déboires de Kering ont pesé sur LVMH qui perd 1,6%, moins 1% ce soir pour L'Oréal et puis ailleurs en Europe, des marchés prudents avant la Fed qui a, comme prévu, n'a pas touché assez tôt ce soir. Francfort gagne 0,1%, Londres est stable, moins 0,5% pour le CAC 40 à Paris, 8161 points.
Merci Claire Lemaître. À vous Marlène Duret pour la météo et hormis que quelques averses orageuses à l'est, c'est le soleil qui va dominer demain.
Oui, alors c'est vrai, je vous avais parlé hier d'une zone un petit peu instable dans le centre-ouest qui allait traverser quelques régions cette nuit et on va la retrouver demain matin en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un ciel un petit peu menaçant. Donc il faut s'attendre à quelques averses accompagnées de coups de tonnerre et cette zone un petit peu chaotique va glisser un peu plus vers le sud dans l'après-midi, vers le massif central, la vallée du Rhône, les Alpes centrales, des averses qui devrait se replier sur le relief d'ailleurs avec une limite pluie-neige vers 2300 mètres et puis de belles éclaircies pourront revenir comme ça en Lorraine et en Bourgogne. Autre zone mitigée dans les régions bordant la Manche, donc des nuages majoritaires mais qui vont pas donner de pluie. Dans les Pyrénées on n'exclut pas un petit risque orageux sur l'est de la chaîne et puis effectivement sur l'est du pays un soleil qui s'impose une fois les grisailles matinales évacuées évidemment.
Et dans la série des bonnes nouvelles, toujours beaucoup de douceur, on a dépassé les 20 degrés dans de nombreuses villes aujourd'hui.
Et oui, comme prévu, la douceur a progressé vers le nord du pays, par exemple à Reims ou à Alençon, dans l'Orne, en Normandie. On a dépassé légèrement les 20 degrés. Les 21 ont été atteints à Paris et Besançon, un seuil de température qui a plutôt tendance à être atteint et dépassé vers la fin mars ou début avril. La plus haute valeur a été relevée en Dordogne et en Corrèze. Il a fait 25 degrés à Montignac et Brive. Et demain, eh bien, les températures maximales afficheront entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 24 dans les régions de la moitié sud. Donc, elles seront sensiblement identiques à celles d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Marlène. Il est 19h17 sur Europe 1 et on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, le narcotrafic à Marseille. La visite d'Emmanuel Macron et de ses ministres, utile ou opération de com? On posera la question au député RN Franck Alizio.
Europe 1 soir. Europe 1 soir. 19h-20h.
Hélène Zelani.
Et il est 19h21 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. On revient sur la situation à Marseille où une grande opération contre les dealers a commencé avant-hier. Toutes les caméras, tous les micros suivaient hier Emmanuel Macron et ses ministres venus appuyer cette opération Place Nette. Aujourd'hui, tout le monde est parti, sauf les forces de l'ordre. Et il semble bien que le trafic de drogue est repris. Bonsoir Franck Alizio.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes député Rassemblement National de Marseille, précisément de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors cette opération Place Nette XXL, l'avenue d'Emmanuel Macron, tout ça c'est un bon signe?
Non, je pense pas. Au final, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire que ça décrédibilise un petit peu plus l'action publique aujourd'hui. Vous l'avez dit, la police est toujours en place, mais les dealers sont de nouveau en place. Donc ça a duré quelques heures, limite c'était du théâtre. Aujourd'hui, cette opération, elle fait rire dans les prisons. Il y a eu différents de vos collègues qui ont fait des articles là-dessus. Ça a fait rire au Beaumet, ça a fait la prison à Marseille, ça a fait rire dans les prisons. En revanche, ça désespère les magistrats. Parce que les magistrats, il y a 15 jours, et c'est-à-dire c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu ce coup de com', ce XXL hier, les magistrats ont dit la situation est très très grave, il nous faut des moyens exceptionnels, il faut quelque part, ce que moi je demande également en tant que parlementaire, un état d'urgence sur Marseille, parce que ça revenait à ça, et ils n'ont hérité que d'un coup de com' où bah, tout le monde sait que le lendemain ça recommence comme avant, donc ça n'a aucun sens, et tout ça est le résultat d'une non-politique, d'un laxisme, d'un laisser-aller, d'un renoncement depuis des années.
Alors, Franck Alizio, que vous disiez que la venue d'Emmanuel Macron soit un plan com, celle de ses ministres également. En revanche, vous pouvez reconnaître quand même que d'importantes forces de l'ordre sont déployées. Il y a quand même 4000 personnes qui vont être mobilisées pendant plusieurs semaines et qu'il y a quand même des premiers résultats. Certes, peut-être pas extraordinaires, mais il y a au total plus de 600 personnes qui ont été arrêtées dans les Bouches-du-Rhône, 120 à Marseille, des dealers en garde à vue, des armes saisies, 22 kilos de drogue, près de 400 000 euros en liquide. Ça existe quand même. Il y a quand même un geste qui est fait. Ça n'est pas que de la communication.
Écoutez, 4000 personnes, 4000 forces de l'ordre entre les policiers, les gendarmes, les douaniers, bref, tous les corps de l'État qui ont été 4000 personnes. 4000 personnes, moi j'attends dans quelques jours, ça va arriver, hein, le moment de vérité, ça va être dans quelques jours. Dans quelques jours, j'attends le nombre de comparutions immédiates, le nombre de personnes qui vont véritablement rester en prison, qui vont véritablement être condamnées. Moi, je n'ai pas l'impression que l'on prenne les choses de la bonne manière. J'ai l'impression qu'on a déclenché une grosse opération, qu'on a voulu faire quelque chose qui avait vocation médiatique. Vous savez, à Marseille, depuis 7 ans, la situation empire. C'est 49 morts, 128 blessés en 2023, dont 4 balles perdues donc sur des innocents, des étudiantes, des retraités. Bon. Et bien depuis 7 ans, le débat à la mairie de Marseille, par exemple, c'est faut-il installer ou non une salle de shoot? Est-ce que c'est le meilleur signal envoyé quand on lutte contre la drogue? Alors pendant ce temps, il y a 2 fois moins de policiers municipaux que dans la moyenne nationale. Et c'est la même chose au niveau national. Au niveau national, on demande un état d'urgence sur Marseille. On demande par exemple que sur l'immigration, on réagisse. Les petits dealers, il y a un point de deal en dessous des fenêtres du président de la région, Renaud Muselier, et macroniste. Il a quasiment en dessous de son bureau un point de deal. Ce point de deal, il est chassé tous les mois. Ce point de deal, il se réinstalle à chaque fois une semaine plus tard.
Alors...
Et ce sont en réalité des mineurs, les fameux mineurs isolés, les fameux clandestins dits mineurs, qui sont embauchés et qui tiennent ce point de deal.
Et voilà la vérité. En quoi l'état d'urgence serait la solution ? Ça ne peut pas durer éternellement en plus, l'état d'urgence.
Ah non, l'état d'urgence, c'est fait pour taper un grand coup, pour donner un coup de pied dans la fourmilière, en donnant, en permettant de sortir du droit traditionnel, c'est ce que prévoit l'état d'urgence, en donnant des moyens juridiques, plus de liberté par rapport au garde à vue, par rapport aux procédures, tout ça à alléger, simplifier, rendre plus souples les procédures et pour la police et pour la justice, de manière à être à armes égales face à ces mafias.
Mais ça va être le même problème, Franck Alizio. C'est-à-dire que là, vous dites, à peine les politiques sont partis, le deal recommence. Si on va au bout de votre logique et qu'on proclame un état d'urgence, à peine sera-t-il fini que ça recommencera. Finalement, on a l'impression que c'est insoluble, ce problème.
Non, parce qu'on pourra condamner, écrouer, arrêter plus rapidement, plus efficacement, aller plus loin, écrouer et condamner véritablement ces personnes qui, aujourd'hui, profitent des méandres de notre droit, des multiples vices de procédure utilisables, de toutes les règles qui sont là à l'origine pour protéger les droits des citoyens et qui aujourd'hui protègent les droits des trafiquants. Voilà. Donc c'est tout ce système qu'il faut alléger tout de suite maintenant et puis perdurer l'état d'urgence jusqu'à ce qu'on ait véritablement des résultats. Vous savez, d'autres pays se sont attaqués et ont eu des résultats. Il faut mettre les moyens et il faut donner des droits et des libertés à notre police et à notre justice pour combattre efficacement sur le terrain et sur le long terme.
Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, disait ce matin, celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, il a le goût du sang séché sur les trottoirs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi s'attaquer aux consommateurs ?
Oui, évidemment, oui. Et ça aussi, ça fait 20 ans, 30 ans qu'avec le débat sur la dépénalisation, les débats sur, après tout, la drogue peut être créative, ça peut être sympa. Tout ce discours, évidemment, est à reprendre. Monsieur Dupond-Moretti s'en rend compte, tant mieux. Mais oui, là-dessus, il a raison. Mais on le dit depuis des années. Nous, c'est pas nous qui avons milité, qui militons encore pour la légalisation des drogues douces. On sait très bien que, par définition, on ne déplacera que le problème vers les drogues dures. Tout ça, c'est un discours de gauche, de centre-gauche, qui est tenu depuis des dizaines d'années maintenant. Évidemment qu'il faut s'attaquer aux consommateurs.
Et comment ?
En augmentant les sanctions, en augmentant les peines, en étant
parce
plus
que
ferme.
L'amende, elle existe. Il y a qu'un tiers des amendes qui sont payées pour la consommation.
Il faut peut-être plus de force de police sur le terrain. Bon, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une proposition. Elle n'est pas révolutionnaire. Elle ne va pas solutionner tous les problèmes. Mais il est étonnant que ça n'existe pas à Marseille. J'ai demandé à ce que le maire de Marseille prenne un arrêté pour interdire le regroupement de consommateurs de crack dans les rues. Cet arrêté, il existe à Paris. Pourtant, la maire de Paris, on a connu plus dur. Il existe à Paris, il n'existe pas à Marseille. Vous voyez, il y a toute une série de petites choses, petites et grandes, pour rendre la vie impossible. Mais au niveau de l'État et au niveau de la municipalité. À Perpignan, il y a un travail qui est fait par Louis Alliot. Il met tous les moyens possibles et imaginables pour rendre la vie impossible aux dealers. Voilà.
Merci.
De tout en haut à tout en bas.
Merci beaucoup, Franck Alizio. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Après les dealers, les voleurs, dans un instant, cette proposition de loi qui veut autoriser l'affichage des voleurs sur les vitrines des magasins ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez évidemment nous appeler au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir. Europe 1, le journal permanent.
Plus de 48 heures après le lancement de l'opération anti-drogue à Marseille, 120 personnes ont été arrêtées, 22 kilos de drogue saisies, des armes également. 4 personnes en garde à vue après le décès d'un jeune de 15 ans tué dimanche soir dans la banlieue de Dijon, probablement en lien avec le trafic de drogue. Elles sont âgées de 25 à 44 ans et 3 sont connues des services de police. La crise du secteur de l'habillement, la maison mère des marques du pareil au même et sergent-major est placée en redressement judiciaire. Le groupe a subi les conséquences des crises sociales, de la pandémie de Covid et de l'inflation notamment. La fraude n'a jamais été autant traquée, se félicite Gabriel Attal. Le Premier ministre salue des résultats historiques dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Plus de 15 milliards d'euros mis en recouvrement l'an dernier contre 14,6 milliards l'année précédente. Et puis les États-Unis disent redoubler d'efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Arabie Saoudite. Il va mener de nouvelles discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas.
19h, 20h, Europe 1 soir.
19h33 et on en vient au fléau des vols dans les boutiques. Un député MoDem veut proposer une loi pour légaliser cette pratique interdite. Afficher les photos de voleurs chez les commerçants, c'est ce que vous avez fait, Jérôme Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du collectif Ras le vol, qui rassemble des commerçants excédés par ces actes. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous étiez responsable d'une boutique de vêtements à Amiens, je dis vous étiez, parce que vous avez jeté l'éponge.
Oui, j'ai jeté l'éponge, j'ai vendu mon commerce. Alors aujourd'hui, je suis 100% dédié à tous les commerçants français, tous les artisans, qui, comme vous l'avez dit, sont victimes de ce fléau qu'est le vol et qui en ont vraiment ras-le-bol, d'où le nom du collectif, c'est-à-dire Ras le vol, avec un V comme vol.
Alors ce type de vol, justement, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter chez les commerçants sur un an ?
C'est énorme, on n'a pas encore de chiffres tout à fait précis, mais on peut estimer que ça représente à peu près 2%, voire parfois un peu plus, du chiffre d'affaires de ces commerçants. C'est beaucoup trop. Certaines études annoncent, mais il faut faire très attention aux chiffres, un peu plus de 7 milliards d'euros. C'est ce que ça coûte aux commerçants français chaque année. De 7 milliards d'euros.
Et on peut imaginer qu'autant pour de grandes chaînes, c'est peut-être un petit peu moins grave, mais pour des petits commerçants à leur compte, c'est même catastrophique. Alors vous, ce collectif Ras le vol, vous l'avez créé il y a un an et vous avez instauré en quelque sorte le principe de balance ton voleur, c'est-à-dire que vous proposez qu'on puisse afficher les visages des voleurs.
Oui, en effet, et je vous remercie de nous donner la parole. Un député a entendu le cri du cœur qui était le nôtre, parce qu'il faut être très clair, aujourd'hui c'est un véritable fléau, ça pourrit la vie des commerçants au quotidien. Et donc, depuis plus d'un an maintenant, nous nous battons pour être entendus, pour faire en sorte qu'un dispositif encadré puisse être mis en place pour permettre aux commerçants de diffuser les visages des voleurs, soit en les affichant dans leurs magasins, et ou, pour ceux qui le veulent, en les diffusant sur les réseaux sociaux, comme ça existe déjà dans d'autres pays. Mais évidemment, en France, on s'offusque de tout ça et on crie au scandale et c'est bien dommage.
Alors, on s'en offusque, mais surtout, c'est illégal, hein, parce que faire ça aujourd'hui, on risque 45 000 euros d'amende, un an de prison pour atteinte à la vie privée. Et en plus, le commerçant peut être attaqué pour diffamation et atteinte à la présomption d'innocence. Donc là, il y a un problème de légalité. Et le député MoDem, Romain Daubier, veut légaliser cette pratique.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a entendu le cri du cœur qui était le nôtre. Et aujourd'hui, il veut permettre aux commerçants français d'avoir, et aux artisans aussi, d'avoir des vrais dispositifs qui les protègent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous avez raison. Vous avez raison dans ce que vous avez dit. Aujourd'hui, ça n'est pas autorisé. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de diffuser les images des voleurs. Mais n'oubliez pas non plus que voler est interdit. Et que ce dispositif que nous souhaitons, qui est aujourd'hui une proposition de loi et on souhaite que demain ce soit une loi, c'est tout simplement pour venir contrecarrer l'organisation de ces voleurs qui aujourd'hui sont très performants.
Alors, il propose, puisqu'on va parler concrètement, hein, ce que propose ce député, c'est qu'on modifie le code pénal pour rendre automatique le consentement à la diffusion de leur image des clients des commerces. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un magasin, il y a un autocollant qui dit clairement, attention, si vous rentrez, l'établissement est sous surveillance, on peut diffuser les images ou des photos sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça serait ce que propose ce député, mais concrètement, ça servirait à quoi ?
Alors si effectivement cette proposition de loi devient une loi demain, ce serait une véritable avancée pour les commerçants et pour les artisans. Les avantages de ce dispositif, c'est que d'une part, ce serait dissuasif
parce qu'on peut imaginer que des voleurs se sachant le visage diffusé de droite et de gauche seraient évidemment sûrement moins à l'aise, donc peut-être auraient-ils moins envie d'agir dans les commerces. Ensuite, eh bien, ça permettrait aux forces de police et de gendarmerie d'avoir un peu plus d'informations sur ceux qui commettent ce type de délit. Donc il y a une forme d'intelligence collective qui pourrait circuler entre commerçants. Et puis ça permettrait aussi effectivement aux commerçants de pouvoir échanger entre eux pour savoir qui est-ce qui a commis tel ou tel vol dans tel ou tel magasin. Donc ça a énormément d'avantages. Et je vous rassure d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des commerçants qui vous écoutent sur Europe 1 et qui le font déjà.
Alors justement, Jérôme Jean, on va prendre en ligne Alain qui nous appelle du Var. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors vous êtes le compagnon d'une pharmacienne, mais vous gérez aussi cette pharmacie. Et vous connaissez très bien, malheureusement, ce problème de vol à l'étalage.
Régulièrement, oui, tout à fait. J'ai un disque dur qui est rempli d'actes de vol. On subit régulièrement ce désagrément. Alors j'écoutais avec attention les propos du monsieur juste avant. C'est vrai que nous, on est en devis actuellement pour un système de détection de vol. C'est-à-dire que si une personne prend une bouteille, un flacon... ou une crème et le met dans un sac ou dans son manteau, automatiquement, ça envoie une vidéo sur soit une tablette, soit un portable.
Est-ce que vous seriez, est-ce que ça vous paraîtrait envisageable, puisque vous pensez éventuellement installer ce système, d'afficher le visage de vos voleurs?
Mais moi, j'y ai pensé, hein. J'y ai pensé à afficher, hein, notamment ceux qu'on ne connaît pas. Hein. Parce qu'il y en a qu'on connaît, hein, mais il y en a qu'on ne connaît pas. Mmh. Oui, j'ai pensé à l'afficher. Et je sais que je ne l'ai pas fait parce que je sais que là, pénalement, j'étais responsable. L'amende était quand même costaud. Mmh. Donc voilà, pour un produit à 120 €, j'allais pas me mettre en difficulté. Hein. Donc non, je ne l'ai pas affiché, mais j'y ai pensé fortement, effectivement. J'aurais bien aimé l'afficher, oui.
Et si jamais cette loi passait, qui est défendue par Jérôme Jean, vous passeriez à l'acte, vous mettriez à afficher ces photos?
Oui, tout à fait.
Jérôme Jean, vous entendez ce que dit Alain, qui s'occupe d'une pharmacie? Vous le disiez, hein, beaucoup de commerçants nous écoutent et sont très tentés, même si ça paraît assez terrible d'en arriver là, objectivement, parce que c'est le rôle de la police de courir derrière les voleurs et c'est pas le rôle des commerçants, normalement.
Vous avez entièrement raison, mais aujourd'hui, sachez que les voleurs sont quand même très, très bien organisés, ont beaucoup de moyens pour venir voler dans les commerces. Très fort pour ce monsieur parce que malheureusement les pharmacies sont extrêmement touchées par les vols en France et c'est une corporation qui en souffre beaucoup. Donc voilà, j'apporte mon soutien à tous les pharmaciens qui nous écoutent et puis à ce monsieur évidemment. Je disais que dans cette proposition de loi, il n'y a pas que la diffusion des visages des voleurs, il y a aussi notre souhait de voir la police avoir plus de moyens et une justice qui condamne plus parce qu'aujourd'hui quand les voleurs sont arrêtés, ce qui est assez rare, malheureusement derrière, ils n'ont qu'un rappel à la loi et ils sont très vite relâchés. Et puis ils recommencent dans la boutique ou dans la pharmacie de monsieur ou dans la boutique des gens qui nous écoutent ce soir. Donc,
justement, Alain, vous êtes toujours là.
Oui.
Appelez la police, là, quand vous vous rendez compte, vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez certains des voleurs. Vous appelez la police, vous avez l'impression qu'ils agissent ou pas?
Non. Alors, j'ai découvert lors d'un vol d'une brosse à dents, enfin bref, de 120 €, hein, qu'en fin de compte, tout dépend aussi du montant volé. C'est-à-dire qu'inférieur à 150 €, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, moi, ce que j'ai envisagé, alors parce que je suis en devis actuellement pour des systèmes de reconnaissance de vol. Mais par contre, il y a des options, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que si la personne revient dans le même commerce, comme disait monsieur, automatiquement, il est détecté et il y a une alerte tout de suite. Donc moi, je miserais plutôt sur effectivement l'affichage, mais aussi la reconnaissance faciale, qui aiderait beaucoup les commerçants.
Merci beaucoup Alain. Jérôme Jean, on sent que c'est un problème majeur. Alors, name and shame, comme on dit dans les pays anglo-saxons, hein, nommer et faire honte, c'est ce que vous proposez. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces systèmes qui font appel à la technologie et qui peuvent peut-être aider au moins à éviter qu'un voleur revienne.
Oui, il y a effectivement, comme l'a dit ce monsieur, vous avez aussi un code pénal qui est extrêmement complet et qui permet par exemple aujourd'hui, dans certaines villes, d'interdire à des clients évidemment malveillants, hein, d'éventuels voleurs, présumés voleurs, on va les appeler comme cela. Vous avez des lois qui permettent pendant une durée maximum de six mois, d'interdire à des contrevenants d'entrer dans le magasin. Elles ne sont pas appliquées. Vous avez des amendes forfaitaires délictuelles qu'on appelle les AFD, qui sont des PV justement pour des vols de 150 € ou 200 €, et on a la possibilité, la police a la possibilité de verbaliser, mais c'est encore trop peu appliqué. Il y a des choses à faire, je vous remercie en tous les cas de nous avoir donné la possibilité d'en parler, c'est un sujet qui commence
à faire réfléchir, à faire discuter. Il va falloir qu'on aboutisse à des solutions parce que tous les commerçants qui vous écoutent ce soir aujourd'hui sont désabusés, sont découragés et se sentent vraiment abandonnés.
Merci beaucoup en tout cas Jérôme
merci
Jean d'avoir
vous,
porté merci d'avoir porté la voix de tous ces commerçants. Vous êtes, je le rappelle, président du collectif Ras-le-Vol. Il est 19h42, ne bougez pas, dans un instant nous serons en direct avec le patron du groupe de maisons de retraite Orpea qui devient Emeis.
Europe 1 soir, 19h20.
Hélène Zélani.
19h47 sur Europe 1, alors que le scandale des maisons de retraite est encore dans tous les esprits, Orpea annonce son changement de nom et devient Emeis. Et nous sommes ce soir en direct avec son directeur général, Laurent Guillot. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci beaucoup d'être à mes côtés dans ce studio. Vous dirigez donc le groupe de maisons de retraite et de cliniques privées qui porte désormais le nom Emeis. Ce changement, qui doit d'ailleurs encore être validé par les actionnaires, ça veut dire on efface tout et on repart à zéro ?
Ça veut dire que c'est la marque d'une transformation qu'on a réalisée depuis 2 ans. Je suis arrivé à peu près il y a 2 ans à la tête du groupe et avec l'ensemble des équipes, les 76 000 collaborateurs d'Emeis désormais, nous avons très largement transformé le groupe pour mettre au cœur du groupe, non pas l'immobilier comme c'était le cas avant, mais vraiment le soin et l'accompagnement, à la fois pour toutes les fragilités. Vous l'avez dit, nous avons des cliniques et des maisons de retraite pour toutes les fragilités, c'est-à-dire les fragilités liées à des accidents de la vie, des fragilités liées à la progression des maladies mentales, notamment auprès de nos jeunes, et à des fragilités liées à l'âge, évidemment.
Mais ce changement de nom, c'est pas aussi pour faire oublier cet énorme scandale qui est lié au livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, un livre sorti en janvier 2022 et qui a évidemment eu de très importantes conséquences sur Orpea.
Ce changement de nom, on le doit aux équipes avant tout. Les équipes, elles font un travail extraordinaire au quotidien, auprès de nos patients, auprès de nos résidents, auprès de nos bénéficiaires. Et tous les jours, et pendant le Covid, nous les avons applaudis, nous les avons acclamés quand elles étaient auprès de nos aînés, auprès de nos malades. Et elles ont continué à travailler malgré la crise, malgré les difficultés, et elles travaillent encore aujourd'hui. Et moi, je veux leur tirer un grand coup de chapeau, et je veux aussi leur redonner, à travers ce changement de nom, la fierté de leur travail, parce que c'est un travail bien fait et un travail qui est difficile, un travail qui n'est pas toujours parfait parce que la vie est difficile et l'activité elle-même est difficile, mais un travail qu'ils font avec un engagement sans limite.
Tous ces personnels, toutes ces aides-soignantes, j'imagine qu'elles ont très mal vécu les accusations dans le livre de Victor Castanet, puisque on les a qualifiées de maltraitantes, certaines.
Tout à fait. Elles ont pris évidemment ça comme une remise en cause de la qualité de leur travail. Alors que dans l'extrêmement grande majorité des cas, et j'allais presque dire la quasi-totalité, c'est un engagement sans faille qu'elles ont au quotidien auprès de nos patients et nos résidents. Il faut remettre vraiment les choses très claires. Le scandale, c'est aussi et avant tout un scandale financier, un scandale de malversation financière qui est déjà maintenant derrière nous depuis longtemps. Nous avons travaillé depuis 2 ans avec l'ensemble de ces équipes pour remettre le soin et l'accompagnement au cœur, en prenant d'abord des mesures qui ont permis d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos collaborateurs. Parce que je ne crois pas qu'on puisse prendre soin de quelqu'un si on est pas en condition. C'est-à-dire, si quelqu'un ne prend pas soin de nous, c'est très difficile.
Alors, quel genre de mesures, par exemple ?
Ça veut dire des revalorisations salariales, ça veut dire notamment de l'amélioration très très importante des conditions de sécurité, santé, sécurité au travail. Vous savez que les métiers du soin sont le métier le plus accidentogène des métiers de la société, 2 fois plus accidentogène que le BTP. Nous avons énormément travaillé sur ce sujet, évidemment pour être attractif aussi et pour pouvoir embaucher des collaborateurs. Et puis sur le projet médical, les premières actions que nous avons évidemment mis en place, des projets de formation, parce que la formation est extrêmement importante et la formation continue pour avoir le meilleur niveau de qualité. Mais nous avons pris aussi des mesures concernant le bien-être de nos patients et nos résidents, en remettant le projet médical au cœur avec le professeur Pierre Crolla-Salmon qui nous a aidés, notamment en améliorant les taux d'encadrement, c'est-à-dire on met plus de monde au chevet de nos patients et de
nos
résidents.
C'est-à-dire, quel est le taux d'encadrement ?
Aujourd'hui, on a des taux d'encadrement qui ont augmenté de 10% par rapport à avant et qui sont plus, j'allais dire, en ligne avec ce que le gouvernement vise à moyen terme pour le secteur qu'avec les pratiques.
C'est-à-dire pour un résident, il y a combien ?
Il y a environ, chez nous, entre 0,75 et 0,80 personnel pour s'occuper dans nos établissements, ce qui est bien plus que la moyenne du secteur.
On va prendre, si vous le voulez bien, on va prendre en ligne Isabelle qui nous appelle des Landes et qui est aide-soignante. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Vous connaissez très bien ce métier hein, dont on vient de parler, qui est très difficile. Quand vous entendez ce que dit Laurent Guillot, tous ces changements, est-ce que vous pensez que ça peut changer l'image des soignants et l'image plus globalement des EHPAD, des maisons de retraite ?
Je pense que le mal est fait.
Vous pensez que c'est il y a pas de marche arrière ? Vous pensez que on ne peut pas retrouver la confiance ?
J'ose espérer que oui, mais ça va être très difficile et très compliqué. Et il faut que nos dirigeants, notamment le monsieur que vous avez en face de vous, soient très clairs avec leur position politique et qu'ils mettent en avant les personnels, parce que sans les aides-soignantes, les infirmières, les AMP, les ASH aussi qui ont leur part de... qui sont très importantes pour ces gens-là, pour la population que l'on a. Et il ne faut pas oublier que la population dont on prend soin, c'est nous dans quelques années.
Bien sûr.
Et ça, je pense que nos dirigeants l'oublient.
Vous avez entièrement raison.
Et je pense qu'il faut passer l'humain avant l'aspect financier.
Ah, c'est une question majeure, Isabelle. Vous avez tout à fait raison de la soulever. Justement.
Pour le moment, c'est l'argent qui prime avant tout. Moi, j'appelle ça l'économie grise.
Alors, écoutez, c'est très bien que vous souligniez ce point. Justement, Laurent Guillot, dans quelle mesure est-ce qu'on peut concilier la qualité des soins et les bénéfices ? Parce que malgré tout, vous êtes une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent et vos actionnaires aussi.
Alors, je vais d'abord revenir sur la première partie de l'intervention de notre auditrice avec laquelle je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, le plan de refondation qu'on a mis en place, la première priorité et la première des priorités, c'est nos équipes, c'est-à-dire les soignants, les personnels. Pourquoi ? Et c'est ce que je vous disais juste avant, je ne pense pas qu'on puisse prendre soin de quelqu'un si quelqu'un ne prend pas soin de nous. Et ça a été vraiment la priorité numéro un de notre plan de refondation. L'entreprise avait des lacunes dans ce domaine. On a procédé à des améliorations salariales, à formations beaucoup plus importantes. Nous avons également prévu, j'allais dire, des mesures extra-salariales qui permettent d'améliorer les conditions de travail. Comme je le disais, nous avons énormément travaillé sur la santé et sécurité au travail. Mmh. C'est un métier qui, malheureusement, est trop accidentogène.
Et dans quelle mesure on peut concilier la nécessité de gagner de l'argent et le bien-être des patients ?
L'équilibre financier est une chose qui est importante, parce que sans équilibre financier, on ne peut pas réinvestir, on ne peut pas investir dans la formation, on ne peut pas embaucher du personnel, on ne peut pas faire énormément d'actions d'innovation qui sont nécessaires sur le moyen terme. Et moi, je pense qu'il y a un concept qui est de bénéfice raisonnable, c'est-à-dire permettre à la fois de faire bien notre travail. De toute façon, si on ne fait pas bien notre travail, et l'histoire l'a montré, ce qui se passe à la fin, c'est une catastrophe qui est à la fois actionnariale et à la fois réputationnelle, et surtout, avant tout, une catastrophe pour nos patients et nos résidents. Mais du coup, faire bien son travail est une condition pour un jour être bénéficiaire, et être bénéficiaire pour réinvestir dans le long terme dans nos activités.
Est-ce que, tout à l'heure, elle a commencé, Isabelle, qui est aide-soignante, son intervention en disant « le mal est fait ». Alors, on a très très peu de temps. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, moi, je suis chef d'entreprise, donc je considère que rien n'est impossible. Ça, c'est constitutionnel de ma constitution, c'est comme ça. Et je pense que ce qu'on est en train de faire avec Emeis montre qu'on peut remonter la pente et qu'on peut être au service de nos patients et de nos résidents.
Voilà, c'est donc un directeur général optimiste que j'ai à mes côtés. Merci beaucoup Laurent Guillot d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ex-Orpea, désormais Emeis.
Merci.
Europe 1 Soir.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir et je vous souhaite une très bonne soirée avec La France Bouge. Elisabeth Assayag, bonsoir. Quel est le programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Vous savez que notre Premier ministre Gabriel Attal a mis sur la table l'option de proposer une semaine de 4 jours pour les parents divorcés. Tout cela nous mène à comment concilier la vie professionnelle et la vie privée dans le monde du travail. On a des solutions françaises et c'est dans La France Bouge.